Pavillon Nomade. Le direct.
Bienvenue à Pavillon Nomade, la radio follement normale, là où les idées fusent et où les micros ne tiennent pas en place. Émission du 21 du 8 2025. Nous avons le plaisir d'être en direct depuis notre studio jusqu'à 16h30 en votre compagnie et de nos participants du jour. Autour de la table, on a Christine, Karine, Suzanne, des nouveaux, Paolo. On a Nathan aussi, il va se présenter un peu plus tard. On a Eliane qu'on retrouve d'ailleurs. Bonjour Eliane.
Bonjour.
On va retrouver aujourd'hui votre chronique sur les animaux.
Enfin. Sans rentrée de vacances.
J'allais dire, vous me spoilez un peu les mots, c'est un peu votre rentrée des classes. D'ailleurs, on va en discuter aujourd'hui.
D'accord.
Et on a aussi Étienne et on a aussi Nap et à la technique, on a Julien. Bonjour Julien, qui nous fait signe comme ça hier avec les deux doigts, c'est magnifique. La reprise aussi pour nous, c'est pour ça que rentrée scolaire dit qu'on va aborder différents thèmes aujourd'hui, dont notamment, aujourd'hui, la rentrée scolaire pour nos petits et grands Valaisans, 21 août, c'est aujourd'hui. Commande. Tout le monde dit que l'école est finie comme dans la chanson chez là, mais en réalité elle nous suit toute la vie. D'ailleurs, on aura l'occasion de faire le point avec nos participants du jour et on parlera également comme j'ai dit tout à l'heure, de la fameuse chronique. Et pour commencer, on a Paolo. Bonjour Paolo.
Oui, bonjour.
Vous avez décidé de nous proposer aujourd'hui comme premier thème un thème autour des voitures. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus qu'est-ce qui fait que vous avez envie de parler des voitures aujourd'hui et comment vous avez envie de lancer ces premiers échanges?
Je parle des voitures d'abord parce que la toute première voiture, c'est celle qui me reste dans le cœur. Parce que c'était une... Je peux dire la marque, non?
Oui, bien sûr, de toute manière, on n'est pas une radio publicitaire et puis on ne va rien gagner là autour, on ne va pas se faire taper sur les doigts, allez-y. C'était quoi?
C'était une Fiat 127 de 1974. Et puis, à ce moment-là, il y avait la police, mais bon, on pouvait faire ce qu'on avait envie à l'époque. On pouvait aller jusqu'à Genève à 140, 160 sans problème. On pouvait boire un petit peu plus d'alcool, il n'y avait pas de problème. Tandis que maintenant, tout a changé, les règles ont changé.
On dirait presque que vous parlez comme ça avec nostalgie. Vous regrettez un peu cette période-là ou
non,
pas?
Non, pas du tout. Non,
ah,
non,
d'accord.
Non, non. Pas du tout, mais on faisait un peu les moments de folie entre collègues et puis des moments qu'on n'oublie jamais, quoi.
Et vous aviez acheté une voiture neuve ou d'occasion?
Non, c'était d'occasion. 1400 francs.
1400 francs. Ouais, ça me fait penser aussi à la première voiture que j'ai eue. Elle m'a coûté 1000 francs. C'était un collègue qui me l'avait revendue. Voilà. J'ai cramé sur l'autoroute parce que je ne savais pas qu'on devait mettre de l'huile dans le moteur. Super. Bah ouais, vous pouvez rigoler. Hein. Mais votre première voiture, et après, vous avez...
J'ai une anecdote comme la vôtre aussi. Et un jour, il ne roulait plus la voiture. Et puis, en fait, on a cherché, et puis elle n'avait plus d'essence. Il me semble que les juges ne fonctionnaient pas bien.
La jauge
La jauge, oui. Et puis, on a trouvé. Et puis après, il y a eu un parcours de voitures. Une, deux, trois, quatre, je pense que je suis à la 9e ou 10e voiture. Et puis voilà.
Et aujourd'hui, votre cœur a balancé pour quel type de voiture? Est-ce que c'est plutôt encore des petites voitures? Est-ce que ça a évolué aussi avec, peut-être, je ne sais pas si vous avez des enfants, parce que des fois, on a une petite voiture au début parce qu'on n'a pas besoin de trop de place, puis après, on a besoin des bagages, on a besoin d'aller les chercher. Est-ce que ça a évolué aussi pour vous de cette manière-là?
Oui, justement. Donc, au long des années, ça a évolué aussi, justement, parce que j'ai eu des enfants. Et puis maintenant, pour ma retraite... Je me suis fait plaisir avec une bonne voiture. Voilà.
Est-ce qu'on peut être un peu indiscret pour toutes les personnes qui nous écoutent? Ça veut dire quoi, se faire plaisir avec une voiture? Comment on se fait plaisir avec une voiture?
C'est
quoi?
Avec une AMG, par exemple.
Ah oui, alors ça, c'est pour... Alors, je ne sais pas si tout le monde autour de la table... Alors, Christine, prenez le micro et puis posez la question à Paolo. On vous écoute. Bonjour, Christine.
C'est une voiture italienne, portugaise?
Et non, c'est ni portugaise ni italienne, c'est plutôt allemand.
AMG.
Oui, AMG. Ouais.
AMG. Ah, parce que moi, allemand, je connais seulement les Mercedes, les Porsche.
Eh bien, vous n'êtes pas loin, la Mercedes, oui.
D'ailleurs, Christine, vous qui avez le micro en main, votre première voiture, vous vous souvenez laquelle c'était?
Moi, je ne conduis pas.
Ah, vous
j'ai
avez
le permis,
pas...
mais je ne conduis pas, j'ai peur.
Vous avez le permis, mais vous
ne
conduisez
pas.
Pas. Ouais. D'accord. Bon, voilà. C'est, ça peut être. Qui c'est d'ailleurs Suzanne. On vous écoute, Suzanne. Votre première voiture, c'était laquelle?
Ma première voiture, c'était une VV Polo, turquoise. Hein, Et depuis, je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup le turquoise. Et je l'ai perdu, le pot d'échappement. Et je l'ai payé 500 francs. Et je l'ai laissé. Quoi, j'en ai racheté une autre. Enfin, mon mari et moi, on a racheté une autre. Une Subaru Vivio, toute petite. Subaru Vivio. Elle était en bleu. Ensuite, elle était en rouge. Et puis, j'ai eu aussi une Subaru Legacy, tout en brun. Je la détestais au pire. Et puis, j'ai eu des Subaru, parce que...
Bah, comme toute bonne Valaisanne, il y a la fameuse...
Mais des vieilles, des 3-4 000 francs.
Il y a la fameuse Subaru Impreza, il me semble qu'elle a fait fureur dans le Valais pendant quelques années. Hein. Je vois qu'il y a pas mal de têtes. Nathan, je vous vois secouer la tête. Bonjour Nathan, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? Bonjour.
Alors bonjour, moi c'est Nathan. Du coup, je fais mon stage ici à Malévo. Je suis étudiant à l'HES en travail social à Sierre. Et puis voilà.
Bah, bienvenue, merci. Nathan. Merci de venir découvrir le studio et l'émission de Pavillon Nomade. Quand on évoque pour vous voiture, déjà, est-ce que vous avez le permis?
Moi, j'ai le permis depuis bientôt 3 ans.
Ah, bah, alors jeune conducteur.
Jeune conducteur encore. Mmh. J'aurai le 18-10, j'aurai 3 ans de permis. Donc je pourrai enfin avoir les 0,5. Ben, que les 0,5 apparemment maintenant qui sont autorisés. Et voilà.
Oui, alors c'est vrai parce que vous faites partie de cette nouvelle génération qui passe le permis en 2 temps. Parce que je crois qu'autour de la table, je ne sais pas si Nap, vous avez fait votre permis de conduire ou pas. Non, on ne l'a pas fait. Pour les autres, je pense qu'on a tous passé notre permis il y a déjà quelques années de ça dans l'ère où on pouvait parler, on pouvait passer le permis sans avoir à être à l'essai. Maintenant, c'est 2 ans, je crois, vous avez dit.
3 ans.
3 ans d'essai.
3 ans d'essai où c'est qu'on doit avoir 0-0. Et puis, s'il y a une sortie de route, n'importe quoi, ben, on n'a plus le permis.
Et ça veut dire quoi? On repasse tout le permis en entier?
Ouais, quasiment. Enfin,
théorie, pratique.
Pratique. Il y a juste quelques cours qu'on fait, enfin, comme les Samaritains ou des choses comme ça, je crois qu'ils restent, mais je ne suis pas sûr du tout. Mais sinon, on doit tout repasser, ouais.
Eh, ça coûte un saladier, parce que quand on sait déjà ce que ça coûte...
Ouais, ça coûte vraiment cher.
les cours de conduite, si on doit tout repasser. Mais quand vous entendez Paolo qui disait, à l'époque, on pouvait rouler à 160, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, ça vous évoque quoi? Et comment vous imaginez cette période-là?
Moi, je suis jurassien, et puis c'est à peu près déjà l'Impreza ou Jura, il y en a aussi pas mal. Mais mes parents, ils me racontaient aussi comme quoi ils rentraient de soirée, tard le soir, avec aussi de l'alcool dans le sang. Ils rentraient vachement tard à des vitesses... Enfin, tant qu'ils arrivent à la maison, et les policiers, c'est juste ce qui intéressait, c'est qu'ils arrivent sains et saufs à la maison, mais il n'y a pas forcément de test ou de choses comme ça. Alors que maintenant, ben, on a beaucoup plus de moyens, nous les jeunes, déjà, de rentrer sans la voiture. Il y a les Lunabus, par exemple, en Valais.
C'est vrai.
Ou les Noctambus, nous, qu'on a chez nous au Jura, qui nous permettent de ne pas prendre la voiture, qui sont peut-être... Enfin, ça permet un peu aussi d'oublier de prendre la voiture, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de contrôle maintenant.
Puis il y a des associations suivant les fêtes, on voit à Noël ou Nouvel An, on a la fameuse association Nez Rouge,
oui, je crois. Si,
c'est vrai qu'à l'époque, Paolo, il n'y avait pas tout ça, ça n'existait pas. On n'avait pas autant de possibilités de moyens de transport, de locomotion pour rentrer du bal musette, du PLR peut-être.
Non, c'est vrai, il n'y avait pas autant de moyens. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, bon, il y avait beaucoup moins de voitures. Il y avait donc aussi la probabilité d'avoir moins d'accidents, parce que maintenant, on a 4 fois ou 5 fois plus de voitures qu'en 1981.
C'est vrai.
Et plus il y a du trafic, plus les probabilités d'accidents aussi.
Des voitures plus rapides, plus lourdes, ou alors pas, Nathan?
Oui, ma voiture, elle a 92 chevaux. Je ne vais pas très vite avec, mais ouais. Elle roule. Quoi.
Ça, ouais. C'est le principal. C'est votre première voiture.
C'est ma première voiture, oui.
Suzanne, après, on donnera la parole à Étienne. Prenez seulement un micro, Étienne, on vous écoute. Suzanne,
Moi, j'ai eu une fois une 2 chevaux. Et mon Dieu, avec les ailes, j'arrivais pas à tenir ma droite. J'avais toujours peur de frotter. Hein? J'avais peur de frotter. Et il y avait une fois une dame qui me dit derrière, j'étais au milieu de la route, quoi. Donc, j'ai lâché cette 2 chevaux, mais. Franchement, j'ai tout essayé, toutes les bagnoles, j'ai essayé. Voilà.
Ben, merci de votre témoignage. Étienne?
Ouais, je voulais dire qu'il y a des gens qui oublient ce qu'ils ont appris à conduire, parce que Ouais, ils se comportent mal sur la route. Alors, ils font des excès de vitesse, ce genre de choses. Bon, moi, j'ai pas eu le permis, mais j'étais accidenté, j'étais renversé par une voiture à 70 km/h, 70 km/h. Donc, vous imaginez quand même que c'est violent. Mais c'est un miracle comme je m'en sors aujourd'hui. J'en dis ça à tout le monde. C'est important de regarder comment on s'en sort et pas se morfondre avec tout ça parce qu'on n'y arrive pas. Ouais. J'aimerais bien qu'on change les choses au niveau de la circulation routière, là où mon accident est arrivé. Sur la route des Moines, j'aimerais qu'on roule à 50 km/h sur l'axe entre entre l'Étiva et les Pissots.
Ouais. Voilà. Alors c'est un appel qu'on fait si on a autour de nous peut-être des gens qui sont en lien avec nos politiciens, nos élus, de leur dire il y a une émission qui est passée, leur en tête date, allez l'écouter parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien avoir des changements, un peu plus de sécurité. C'est vrai, on parlait tout à l'heure de l'alcool au volant, de rappeler à notre jeunesse et aux gens qui nous écoutent que vous faites prendre des risques aux autres, que c'est pas tout à fait judicieux. On ne conduit pas en étant alcoolisé. Alors je sais bien que c'est arrivé à beaucoup de gens, mais on a un témoignage aujourd'hui touchant de quelqu'un qui a pu s'en sortir, mais malheureusement on a aussi beaucoup de jeunes. D'ailleurs j'ai une belle pensée pour tous ceux qui nous ont quittés ces derniers temps, parce que c'est régulier, toutes les familles endeuillées. Donc s'il vous plaît, on prend pas le volant en conduisant, on respecte les limites et on fait attention. On doit avoir ce côté très respectueux pour nous, mais surtout aussi pour les autres, hein. Suzanne,
l'été, le col des Mos, il est horrible parce que il y a trop de motos, il y a des cars qui vont à 80 à l'heure et il y a des voitures qui vont à 120 et il y a des motos qui vous font des queues de poisson et c'est horrible d'emprunter ce col. Donc, et vous arrivez à Aigle, la nuit, il n'y a pas de lampadaire. Hein. Il n'y a vraiment pas de lampadaire sur un bon bout et c'est vraiment dangereux. Voilà.
Ben, merci. Alors, Eliane, allez-y.
Je voulais juste rajouter, Jimmy, le Natel au volant.
Le Natel au volant, ça, c'est un fléau, hein, mais pas que seulement au volant. Hein, mais effectivement, il y a de plus en plus de gens qui roulent. On a des accidents qui sont liés la distraction en sens général, hein, parce que ça peut être pour d'autres choses, hein, mais le Natel notamment. D'ailleurs, normalement, on est censé ne rien avoir dans les mains dans le code de la route. Alors peut-être que Nathan, c'est peut-être plus présent pour vous, qu'il avait passé il n'y a pas si longtemps, mais mes souvenirs que j'ai eus il y a à peu près, moi j'ai passé mon permis très tard, à 30 ans, parce que sur Genève, j'avais pas besoin de voiture, hein, mais quand je l'ai passé ici dans le Valais, c'était 10-10, les mains sur le volant, et qu'on n'a même pas le droit de fumer, de manger un sandwich, de légalement, si on a un accident, une caméra nous voit en train d'être un sandwich à la main ou de se moucher, j'ai cru comprendre qu'on pouvait être passible de d'amende, ce qui paraît assez logique, mais je sais pas, Nathan, aujourd'hui c'est quoi les règles?
Là vous mettez vraiment une colle, hein. Moi je connais plus les règles, ça fait déjà 3 ans que j'ai passé mon permis, mais il me semble qu'on peut boire ou fumer au volant. J'avais entendu une règle comme quoi on m'avait dit qu'on pouvait fumer une cigarette, mais pas forcément une puff, parce qu'une cigarette on peut la tenir dans la bouche sans forcément la tenir avec les mains, alors qu'une cigarette électronique ou quelque chose comme ça, on est obligé de la reprendre avec les mains. Du coup, il y aurait ça qui serait un peu illégal, mais je ne peux pas plus vous renseigner que ça.
Alors, je fais un peu l'avocat du diable, parce qu'une puff, on la laisse tomber, elle ne nous brûle pas le jeans et elle ne met pas feu au papier par terre. Une cigarette qu'on laisse tomber, elle nous brûle. Geste qui peut faire un coup sur la droite, sur la gauche. Enfin, je taquine un peu. Mais j'irai me renseigner d'ailleurs, parce que c'est vrai, je me dis, tiens, les choses ont évolué. Paolo.
J'ai juste une petite anecdote à raconter.
On vous écoute.
Voilà. Donc, une fois, il faisait trop chaud et puis je mettais une protection devant la vitre de la voiture. Et puis, donc, je devais la tenir avec une main, fermer la porte. Et après, de l'autre côté, la même chose. Et puis, j'ai tenu le tissu avec un doigt. J'ai fermé la porte, puis le doigt il était coincé, et puis j'arrivais plus à ouvrir la porte.
Oui, aïe, 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 aïe.
Alors vraiment, je crois que j'ai utilisé le mauvais doigt. Et puis là, c'était très, très dur. Puis bon, résultat long, les quelques jours, il était long.
Ouais. Et bah, ça, c'est une anecdote. Est-ce que d'ailleurs, il y en a d'autres qui auraient envie de partager une anecdote qu'ils ont eue avec leur voiture ou pendant leur parcours? Eliane, on vous écoute.
Alors, ma première voiture était une Alpha Sud bleue que j'adorais, vraiment. Et puis, je me suis un peu payé la honte parce que je l'ai amenée au garage en disant la jauge, elle est bloquée. Et puis, en fait, non, il n'y avait plus d'essence. Alors, quand j'étais chercher ma voiture après le travail, ils ont tous bien rigolé et j'ai quand même dû payer le démontage du réservoir.
Bah dis donc. Il y en a des vertes et des pas mûres. Suzanne, une anecdote sur,
moi,
sur votre parcours.
Moi, sur ma première voiture, ma VW Polo, je suis partie, il n'y avait pas longtemps que j'avais le permis, je suis partie de Lausanne à Moutier, panne sèche, et plus d'eau, plus d'huile. Puis je ne savais pas pourquoi, je savais pas. Mais elle a quand même tracé, hein. Elle a quand même tracé sur la route.
C'était la choupette numéro 52, ouais. qui était animée, pour ceux qui connaîtront la référence de ce vieux film des années 70, je pense, de cette coccinelle qui était une voiture qui faisait des courses et puis qui était presque vivante. Hein. C'était juste incroyable. D'ailleurs, en parlant de courses, c'est quand même étonnant de voir qu'au niveau européen, on n'a pas la même législation au niveau des droits sur la route. Ça m'a toujours étonné de voir qu'on roule en Suisse maximum 120, en France ou en Italie 130, et puis en Allemagne, on a encore des vieilles autoroutes où on peut rouler sans limite. Alors la Belgique aussi, fut un temps, avait aussi des autoroutes où il n'y avait pas de limite. Et je me suis toujours étonné de ces différences. Alors, je ne sais pas, vous avez eu l'occasion de vous retrouver confronté à ces différences, Paolo?
Moi, j'ai roulé en Allemagne. Et donc, à une vitesse beaucoup supérieure qu'ici. Et puis, je vois que le trafic, il est fluide. Et puis, ce n'est pas pour ça qu'il y a plus d'accidents, il me semble. Comme j'ai vu, ouais, parce que les gens ils sont concentrés, quand ils vont à une autre vitesse, ils sont plus concentrés, soit les dépassements, soit... Voilà, donc.
Ouais. Alors peut-être c'est une hypothèse hein, de se dire, peut-être les statistiques démontrent que si tout le monde roule de manière très fluide, à la même vitesse, en faisant attention à mettre le clignotant, tout dépend de quelle région on vient, pour montrer qu'on se décale ou pas, peut-être que c'est peut-être aussi le fait, le non-respect en fait du geste qu'on va faire qui crée des accidents. Mais malgré tout, quand on prend sur la route un rocher ou un objet par terre à 180, bah, on va pas dévier de la même manière quand on roule à 80 ou à 120. Donc la question se discute. Je veux certainement qu'il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on doit faire attention à soi et aux autres quand on conduit. On vous laisse la dernière anecdote de fin, Suzanne, avant qu'on passe un petit morceau de musique.
Moi, je dirais, respectivement, on doit maintenir une distance d'après la vitesse à laquelle on roule et à celui qui roule en avant. Si celui qui roule en avant roule, par exemple, en zone urbaine à 40 à l'heure, eh bien, on doit respecter la distance. C'est pas parce qu'il roule à 40 qu'on doit lui coller aux fesses.
Vous avez raison, on doit faire preuve de civisme, de bienveillance. Donc, quand vous êtes en voiture, faites attention à vous, mais faites attention aux autres. Respectez-vous, aidez-vous. Étienne, alors ça va être... Allez-y.
Ouais, puis faites attention aux enfants que vous croisez sur certains secteurs.
Oui. D'ailleurs, on va en parler après des enfants parce que vous avez raison de rappeler ça. C'est la rentrée scolaire. Il y aura pas mal d'enfants qui vont être au bord des routes, qui vont être à pied, qui vont être inattentifs parce qu'ils seront contents d'être avec leurs copains et qui, ont, pour certains, la première fois, vont peut-être aller à l'école à pied sans les parents parce que ça aussi, ça fait partie de l'évolution de nos jeunes quand ils sont en primaire jusqu'à l'école du cycle. Donc, s'il vous plaît, pour tout le monde, mais aussi pour nos jeunes, mais on aura l'occasion de revenir sur cette rentrée scolaire après ce morceau de musique, j'allais dire ce morceau de musique, ça tombe bien parce qu'on va écouter Le Chocolat de Sabine Paturel.
J'ai tout mangé le chocolat, j'ai tout fumé les cravenas, et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout J'ai tout démonté tes tableaux. J'ai tout découpé tes rideaux. Tout déchiré tes belles photos que tu cachais dans ton bureau. Fallait pas me quitter.
Retour sur les ondes de Pavillon Nomade, il est 15h52 en votre compagnie, en notre compagnie, avec tous nos invités du jour. Merci d'être présent, j'espère que ça vous a fait retourner un petit peu dans vos enfances. Je vois des têtes qui disent oui. Alors on va un peu plus retourner encore en enfance, parce qu'aujourd'hui on parle d'un moment que tout le monde connaît, l'école et la rentrée scolaire. La rentrée, c'est un mélange d'excitation, de stress, de souvenirs marquants, parfois drôles, parfois difficiles. On va en discuter ensemble aujourd'hui à travers vos anecdotes, vos réflexions et aussi vos souvenirs. Savez-vous que l'école n'a pas toujours été pour tout le monde? Déjà, dans l'Antiquité, seuls les garçons riches y allaient. Les autres, c'était débrouillez-vous. Au Moyen-Âge, c'était surtout l'Église qui enseignait. En latin, s'il vous plaît, pas facile pour demander la récré, ça c'est clair. Et puis au 19e siècle, avec Jules Ferry, débarque et dit, allez hop, tout le monde à l'école, gratuite, laïque et obligatoire. Et aujourd'hui, l'école est un droit universel, même si, soyons honnêtes, certains préfèrent encore les vacances, ça c'est sûr. Et puis que malheureusement, aujourd'hui, toutes les personnes sur notre planète n'ont pas tous accès, malheureusement, à l'éducation et à l'école. Ça, c'est aussi une réalité. Mais pour parler un petit peu de ce souvenir, de ce ressenti de l'entrée scolaire, parce qu'aujourd'hui, 21 août, c'est l'entrée valaisanne, parce que je crois que Genève, Jura ou peut-être d'autres cantons ont déjà commencé depuis lundi. Mais le Valais, il a envie de faire des choses différemment. Il fait commencer nos jeunes un jeudi matin. Quand on vous dit rentrée des classes, quels souvenirs vous viennent spontanément? Qui a envie de prendre la parole? Quand on vous dit rentrée des classes, Karine, on vous écoute. Bonjour Karine.
Bonjour.
Ça fait plaisir de vous avoir autour de la table pour la première fois.
Pour la première fois.
Bienvenue.
Oui. Merci, c'est gentil.
Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous? À quoi ça vous fait penser quand on dit rentrée des classes?
Moi, personnellement, quand j'étais petite, je me rappelle encore que je me réjouissais de partir à l'école. J'étais contente, je suis partie de bon cœur, j'habitais un petit village, on avait un bus qui nous amenait, c'était très sympa. J'ai un bon souvenir pour moi-même. Après, moi, personnellement, j'ai une fille qui maintenant a 24 ans. Je me rappelle aussi la première fois que j'ai dû la déposer à l'école. Pour une maman, ce n'est pas toujours évident, surtout son premier enfant. Tu l'amènes à l'école, tu dois te détacher de ton enfant. Ce n'est pas si simple. Tu laisses aller ton enfant vers d'autres personnes. Et puis, je me rappelle que j'avais les larmes aux yeux. Ouais, alors là, c'était pas facile. Alors, je pense à toutes les mamans qui, aujourd'hui, ben, pour la première fois, amènent leur enfant à l'école. C'est un moment spécial, pas facile. Mais c'est super. Enfin, après, on s'habitue, quoi. On est content que l'enfant il grandisse et qu'il évolue quand même.
C'est vrai. Voilà, ah ben, oui. Merci de partager avec nous. En tout cas, on voyait qu'il y avait ce souvenir avec qui pétillait dans vos yeux de se remémorer un petit peu l'entrée scolaire de la vôtre et celle de votre fille.
Oui,
parce que 24 ans, je pense que j'imagine maintenant, elle fait d'autres rentrées scolaires, elle fait peut-être des études. Bah, c'est aussi
elle
des rentrées scolaires.
Elle est plus grande, donc ouais. Ouais, c'est ça a passé le temps, c'est bon.
Alors, je ne sais pas comment les autres autour de la table, vous avez vécu ces rentrées scolaires. Est-ce que vous étiez plutôt impatient? Est-ce que vous étiez plutôt anxieux? On vous écoute. Suzanne.
Ben moi, j'ai fait une inverse. C'est-à-dire qu'une inverse...
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une inverse?
Parce que là, j'ai fait une combine. Moi, à la fin de l'année primaire, c'est-à-dire... en sixième année, je devais faire la prime sup jusqu'en neuvième année. Comme j'étais assez calée, sans vouloir être prétentieuse, il y avait un prof que je ne pouvais pas puer. Donc, je ne voulais pas être avec lui. Alors, le jour de l'examen, j'ai fait toutes des conneries. Et comme ça, je n'ai pas passé la prime sup. Mais j'ai pris ma revanche parce que lui, il est resté en primaire. Du coup, l'année d'après, mais ça m'a retardé d'une année, hein, parce qu'en plus, je suis du début de l'année, je suis sortie de l'année de l'école, j'avais 17 ans et demi hein, au lieu de 16. Et j'ai refait mon examen et j'ai passé au la main. Et ensuite, j'ai fait mon école à Rossinière.
Eh ben, quel parcours! Et quand on parle de ressenti, comme vous avez partagé déjà, mesdames, quand on parle de ressenti de la rentrée des classes, est-ce qu'il y a une entrée en particulier qui vous a marqué dans votre parcours, Étienne?
Ouais, la peur de reprendre. Ah mince, c'est la fin des vacances. Oh là là. J'étais sur la plage avec une jolie copine. J'étais à Cuxhaven. Dans le nord de l'Allemagne, j'étais en vacances, j'ai rencontré une jolie fille de Hanovre qui s'appelait Julia, et puis une autre qui venait d'ailleurs, qui s'appelait, je sais plus son nom.
En tout cas, on voit que vous enfin, vivez bref, sentimentalement et que vous...
Bref, il fallait revenir à la maison... Retrouver le rythme, c'était un peu le stress, parce que moi, j'ai eu beaucoup de changements au niveau scolaire, beaucoup de changements d'état de nuance scolaire. Elle s'appelait Zeke, ça c'est un prénom allemand. Ouais, il me revient maintenant. Ouais, j'aurais bien voulu... rester ou travailler là-bas ou vivre là-bas. Enfin bref, on a son idéal quand on va en vacances et puis quand on revient, c'est plus le même. Mais ouais, moi, c'est le stress à l'école, c'est le stress et le respect parce que comme j'ai eu un accident, c'était difficile de retrouver un rythme comme avant. Je changeais d'établissement, j'ai changé plusieurs fois d'établissement scolaire. Enfin, c'était pas facile.
Mais non, c'est pas facile. Et puis d'ailleurs, ça me fait vous mettez l'eau à la bouche par rapport à la suite hein, de cet échange, parce que quand on parle de rentrée scolaire, on parle aussi de stress et de santé mentale. Hein. La rentrée peut être aussi un moment difficile. Hein. Quels sont, selon vous, les facteurs de stress hein? Est-ce qu'il y a le rythme scolaire, les attentes, la pression des notes, je sais pas. Qu'est-ce qui serait peut-être je me tourne auprès de Nathan. Nathan qui est autour de nos tables fait partie un peu de nos jeunes. Hein. Si on parle de finalement, la rentrée peut être aussi un moment difficile. Selon vous, ce serait lié à quoi peut-être?
Peut-être pour les jeunes, c'est peut-être un truc plutôt de ma génération, mais c'est plutôt l'allure, l'attitude qu'on a. Ça peut être les vêtements qu'on a ou quel short, quel sac à dos on a. Exactement. Je sais pas si c'était la même chose pour votre génération, mais pour moi, je me souviens que je me préparais 2 jours à l'avance comment j'allais m'habiller pour pas avoir l'air trop ridicule, ou même qu'on entrait à l'école secondaire. C'est que c'était les 3 dernières années d'école. Il fallait avoir l'air d'un adolescent, du coup avoir peut-être un peu de barbe ou quelque chose comme ça, et puis que les autres remarquent en fait.
Oui, mais l'habillé ne fait pas le moine. Hein.
Oui, je suis d'accord avec vous.
Mais c'est là qu'on voit la différence. On parle de choc de culture générationnelle. Mais oui, ce que vous dites résonne en moi, parce que pour moi, ce n'était en tout cas pas ce qui me stressait à la rentrée d'école. Mais mon fils, d'ailleurs, j'ai une belle pensée pour toi, mon fils, parce qu'il n'a pas pu faire sa rentrée scolaire, parce qu'il a eu un petit accident au foot, fracture du tibia. Mais il disait, mince, j'ai acheté plein de jeans, je ne vais pas pouvoir les mettre à la rentrée. Donc, il y a peut-être un petit peu de vrai aujourd'hui, peut-être le stress est plutôt lié à ce phénomène, alors c'est marrant, c'est un drôle de lapsus, hein, phénomène et même sur l'habillement, les réseaux sociaux, sur bah, finalement ce qui est beaucoup plus, c'est comment on va être reconnu par le reste de la classe, que plutôt de se dire quel prof je vais avoir, quoique ma fille elle s'inquiétait de savoir quel prof. Karine, on vous écoute et après on donnera la parole à Étienne et Suzanne.
Oui, et puis alors un événement que je voulais parler qui peut aussi stresser beaucoup de jeunes, c'est qu'il y aura une rentrée scolaire sans Natel cette année.
Waouh, alors ça, je ne savais pas. Vous m'apprenez quelque chose.
Natel plus autorisé pour l'école, quoi, parce que ça va être un grand stress pour les jeunes, parce que eux qui sont connectés maintenant, hyper connectés à ce monde, ça va être dur pour eux.
Alors, est-ce que ça va être un grand stress ou est-ce que finalement, ça va leur aider à être paradoxalement moins stressés et pris par je viens de recevoir un message, j'ai entendu un bip, mais qui sait qui rendait peut-être plus stressant. Je ne sais pas. On leur posera peut-être un jour la question, mais merci de l'information. Ça m'était passé.
Oui, mais après, je trouve que c'est aussi bien. Bon, mais après, je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner, parce que comment ils vont contrôler aussi tous ces jeunes? Comment ils vont contrôler qu'ils n'ont vraiment pas de Natel sur eux?
Qui c'est qui a une idée de savoir comment ils vont faire pour ça?
Ils brouillent les
Natel. Alors, peut-être qu'il y a dans certaines écoles, Christine, merci.
Ils brouillent les Natel.
Peut-être qu'il y a des brouilleurs de Natel, mais alors ça, je ne sais pas. On sait que ça existe en prison. L'école n'est pas une prison quand même. Mais peut-être simplement, ça sera, on sait que tu as un téléphone, hop, dans le casier, dans une caisse, et puis une fois, deux fois, celui qui aura essayé de truander se finira avec des colles, avec des lignes à écrire, parce que je sais que ça se fait encore ces punitions un peu bizarres.
Mais après, je pense que c'est quand même une bonne chose ça, parce que maintenant, y a avec ces réseaux sociaux, ça va très loin chez les jeunes et tout, et par rapport aussi à quel manque de concentration à l'école, tout, et puis aussi peut-être des histoires aussi de harcèlement. Il y a aussi le harcèlement scolaire maintenant, qui est quelque chose de très grave à l'école, et puis qui est peut-être dû aussi à la communication, qu'on communique avec d'autres, des groupes. Et puis ça, c'est quand même un problème d'actualité.
Mais je pense que c'est une bonne stratégie qui aide à bien vivre la rentrée scolaire pour les élèves d'aujourd'hui. C'est les Natel, tout le monde, hop, on coupe, priorité à l'école. Étienne.
Oui, moi, je dis que c'est pas si négatif que ça, parce que on peut s'échanger des informations au niveau des devoirs, des choses à faire pour l'école, parce que c'est pas mal Internet aussi, les emails et tous ces courriels, tous ces machins, c'est aussi bien, aussi Facebook, c'est bien pour s'échanger, pour pouvoir un peu s'entraider, quoi, finalement. Parce que sinon, avec que le téléphone, on doit prendre le téléphone dans une main, puis un stylo dans l'autre, et puis prendre des notes. Non, je trouve ça un peu pratique, la technique qu'on a aujourd'hui. C'est clair, il faut pas, il faut l'utiliser à un certain moment, quoi. C'est, on peut pas l'utiliser à n'importe quand, quoi.
Ouais, il faut que ça soit cadré, encadré, et puis parce qu'on doit vivre avec l'évolution de son temps. Suzanne.
Moi, je voudrais dire une petite anecdote. C'est que j'étais tellement à l'ouest, mais tellement à l'ouest, que mes enfants, bon, ils allaient à l'école et tout. Ils allaient à l'école et un jour, ils allaient skier. Alors, mon fils, il ne trouvait pas son casque. Les habits, ça allait. Il ne trouvait pas son casque. J'ai dit, mais écoute, tu vas le trouver. Alors, je ne trouve pas mon casque, le bus va partir. Je dis, mais écoute, t'as vu, il y a un casque là, prends-le. Puis il me dit, ah bon, ouais, super. Il prend ce casque. C'était un casque de vélo. Mais il s'est fait mais rire de lui toute la journée avec son casque de vélo pour le ski.
C'est une belle anecdote et je pense qu'il a appris l'autodérision grâce à ça. Paolo.
Alors, moi, je ne sais pas si vous êtes du temps où il y avait une règle à l'école. Et puis, voilà, donc, on faisait quelque chose que c'était pas bien, ben, c'était comme ça. Et puis, une, deux, trois, quatre, cinq. Et puis, le premier jour que je suis rentré à l'école, ben, c'était encore les tables, comment on appelle, en bois. Donc les
avec le porte-stylo ou le pot à encre.
Et puis les trucs à encre, mais en porcelaine. Et puis j'ai cassé un. Le premier jour, je me suis amusé, il l'a cassé. Et puis voilà, j'ai goûté là.
Vous avez goûté quoi, l'encre ?
Non, La règle.
La règle, oui. Mais c'est vrai qu'il y avait à l'époque, peut-être là, dans les différences générationnelles, on n'avait pas les mêmes punitions qu'aujourd'hui. Hein. Moi, je me souviens avoir dû écrire « Je n'ai pas le droit de parler en classe » ou « Je ne dois pas oublier les points sur les i » au moins 200 ou 300 fois, ce qui m'avait tellement énervé que j'avais fait le zouave et le prof m'avait dit « Jim, prends la porte !» Et sincèrement, je l'ai fait comme beaucoup de gens l'ont fait. Je suis allé, j'ai essayé de dégonger la porte. Bon, je n'ai pas réussi. Il me dit « Vous faites quoi ?»« Mais ouais, dites prendre la porte !» J'ai pris 200 lignes de plus. Étienne ?
Ouais, moi, j'avais une feuille où c'était écrit le mot « silence ». Et puis, si je faisais trop de bruit, on venait tracer une lettre. Et puis, au bout de la semaine, j'ai essayé de garder mon silence parce que pour pas déranger les autres. Voilà, c'est une règle aussi.
Alors, l'école, on parlait de stress, on est passé par le stress, on est passé par le comme lieu de vie. C'est aussi un lieu de vie, hein, j'allais dire. Au-delà des cours, l'école, c'est aussi un lieu de vie. Et qu'est-ce qui la rend si accueillante ? Je ne sais pas si aujourd'hui, vous avez, vous, dans votre parcours personnel, est-ce que vous êtes senti, est-ce que c'était des étapes aussi significatives ? Qu'est-ce que vous avez appris en termes de lieu de vie et d'échange avec les autres ? Eliane ?
Oui, la rentrée, c'est plus ou moins agréable selon les enfants. Mais la différence, quand on passe de l'école obligatoire à l'université, ça n'a plus rien à voir. À l'université, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous.
C'est-à-dire chacun pour soi. C'est-à-dire que, parce que ça me fait penser aussi parce que l'importance des relations sociales. C'est-à-dire que quand on est à l'école primaire, peut-être primaire, secondaire, on a plus, si j'ai bien compris, le sentiment d'avoir cette appartenance sociale. Et plus on monte et on va dans des écoles un peu plus peut-être élitistes ou en tout cas universitaires, les gens sont de plus en plus individuels, pensent plus à eux.
Alors absolument. Parce qu'à l'école obligatoire, on a encore le jeu. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de natel, il n'y avait pas ce genre de choses. Donc, à la récréation, on jouait au ballon.
À l'élastique. Karine nous disait à l'élastique, oui.
Voilà, tous ces jeux, en fait, qui sont un petit peu perdus. Dit qu'à l'université, on est obligé de se concentrer à fond, d'énormément travailler pour obtenir un résultat potable, je dirais. Mais c'est vrai, ce que disait Jimmy, c'est il n'y a pas tellement de vie sociale à l'université. En tout cas, moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Ça a peut-être changé. Mais à mon époque, c'était chacun pour soi.
Alors, fort de vos expériences et de celles peut-être que vous avez aussi vécues à travers celles de vos enfants, notamment Karine, aujourd'hui, l'école de demain, si ça devait évoluer, vous proposeriez quoi ? Et Nathan, qui est encore en plein dans les études, si je fais un petit regard croisé entre ces deux générations, qu'est-ce qui serait à proposer, à changer ?
Pour l'école de demain, du coup, pour l'école obligatoire, moi, je proposais quelque chose qui, enfin, peut-être un peu moins de cours de français comme ça, mais plus sur la société en général, pour que ça soit un truc qui puisse éduquer les gens. On a la chance d'avoir l'école en Suisse qui permet, où c'est qu'on peut offrir la même chose à tout le monde. Je pense que cet outil, il n'est pas assez utilisé. J'en discute beaucoup avec mon père, qui est directeur d'une petite école dans le Jura bernois.
D'ailleurs, qu'on se permet de saluer, d'ailleurs.
Oui. Et puis, ouais, je trouve que, enfin, apprendre un peu des règles de base de vie, enfin, qui pourraient aider dans la société, ou peut-être utiliser justement l'intelligence artificielle ou des outils, où c'est que ça change beaucoup maintenant. Peut-être apporter ça un peu à l'école, je trouve, ce qui manque réellement, en fait.
Plutôt. Un peu moins de côté rébarbatif.
C'est ça, je trouve que l'école n'évolue pas assez par rapport à la société. Ouais. En même temps, c'est compliqué de faire évoluer l'école.
Alors, c'est vrai qu'on a, au contraire, on a perdu. Moi, plus jeune, j'avais des cours de civisme. J'en parlais avec mon fils. On avait ça à l'école obligatoire, hein, au cycle. Alors, ils ont ça à travers d'autres cours, mais il n'y a plus quelque chose qui est proprement à ça. Peut-être que ça peut être intéressant de se dire il faut ramener des. On en avait discuté d'ailleurs à l'époque, on avait parlé sur l'éthique, un des thèmes qu'on avait abordé ici à Pavillon Nomade. Se dire peut-être des leçons, des échanges sur l'éthique, sur la bienveillance, sur le respect. Alors, ça se fait. Hein, on sait que Mathias Reynard a pas mal œuvré pour tout ce qui est en lien avec. On parlait tout à l'heure de le harcèlement à l'école. On sait qu'il y a des choses, mais certainement qu'il y a peut-être un peu moins de cours académiques comme on a eu et à apprendre des règles. Oui, mais à un moment, peut-être qu'il y a d'autres choses.
Oui, comme par exemple, je pense à la pensée critique, où c'est que avec les réseaux sociaux, on nous donne plein de choses qui sont justes ou fausses, ou même les présidents, des choses comme ça, on dit fake news tout le temps avec X. Et puis je pense que la pensée critique, c'est quelque chose qui devrait être assez important, surtout maintenant, et puis faire évoluer ça chez les jeunes, très jeunes, parce qu'ils sont obligés déjà à 12 ans si on est sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut aider ces jeunes-là, justement.
Ouais, vous avez raison, mais je pense que ça fait du bien d'entendre que les plus jeunes ont encore et aussi prennent conscience et proposent aussi des nouvelles pistes. Eliane ?
Oui, je voulais revenir sur l'école en disant que c'est l'enseignement des langues à l'école obligatoire. Je ne sais pas si ça a évolué maintenant, mais c'était absolument nul, mais nul.
Alors, je ne sais pas si je dois vous rassurer, Eliane, ou pas, mais j'ai mon fils, je pense que ça n'a pas évolué. J'ai beaucoup de respect pour nos enseignants qui font un travail remarquable. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est nul, mais on va dire que ce n'est peut-être pas suffisamment adapté aujourd'hui. Je rejoins Nathan sur ce qu'il faudrait faire en termes d'immersion.
Moi, il y avait une phrase que j'avais oubliée, mais qui m'est revenue il y a quelques jours. L'enseignement de l'anglais. Brian is in the kitchen.
Ah, le fameux Brian.
Le fameux Brian. Et en fait, est-ce que ça vous a déjà sauvé d'une galère ?
Personnellement, non, mais peut-être qu'Étienne va nous proposer aussi son regard à ce sujet-là. Étienne, on vous écoute.
À l'école, moi, j'ai fait souvent des vacances en Allemagne. En plus, j'avais une grand-mère allemande à Hambourg, donc je parlais l'allemand. Et puis à l'école, on m'apprenait on m'enseignait l'allemand, mais alors c'était comme le suisse allemand. Parce que pour me dire Kirche, comment dire, pour une église en allemand, Kirche, Heilige Kirche, ça on dit en allemand. Et puis à l'école, on me dit Eine Kirche. Alors bon, il faudrait savoir, c'est l'allemand ou le suisse allemand? Ouais, ça l'a vexé, mais bon. Moi, j'ai beaucoup voyagé en Allemagne, puis bon, j'ai appris l'anglais au Royaume-Uni. J'ai fait des séjours linguistiques là-bas, en Angleterre et en Écosse.
Comme quoi, c'est l'immersion qui permet de pouvoir apprendre les langues. Alors, ça peut être de bonnes bases à l'école, parce que moi, ça m'a servi, mais c'est vrai que j'ai appris l'italien, non pas à l'école, mais en parlant en Italie, en essayant. On a Loïc qui est là. Aujourd'hui, Loïc, on parle de rentrée des classes. C'est pas que seulement la rentrée des classes que pour les étudiants, c'est ou les élèves, c'est aussi la rentrée des classes pour les professeurs. Hein. Et si on a échangé un petit peu avant de venir, vous aviez envie de témoigner un petit peu d'un soutien auprès de votre sœur, si j'ai bien compris, qui commence aujourd'hui son premier emploi en tant que prof d'école. C'est bien ça?
Oui. Alors, c'est la première fois que je fais de la radio et je ne suis pas du genre à être à l'aise pour prendre la parole dans la vie, même mais derrière vous inquiétez un pas. Micro. Donc, pardonnez mon élocution. Mais je tenais à passer ce message qui me tient particulièrement à cœur aujourd'hui. Ici, à l'hôpital, on ne vit pas que des moments heureux, même si l'équipe soignante que je remercie au passage prend bien soin de nous. On se sent parfois oublié par notre famille, nos amis ou la société. Le thème d'aujourd'hui étant la rentrée des classes, j'ai un petit ange qui fait partie des gens pour qui je tiens bon et pour qui je m'accroche à la vie. Elle se nomme Laetitia, il s'agit d'une de mes petites sœurs et aujourd'hui est un grand jour pour elle, car la formidable, passionnée, courageuse et admirable femme qu'elle est, fait sa rentrée, non pas en tant que petit enfant craintif qui doivent laisser pour la première fois la main de leurs parents, souvent dans les larmes, mais en tant qu'enseignante avec les petits anges qui seront l'avenir de demain. Je voulais lui dire en direct que je suis si fier d'elle, lui souhaiter un magnifique début de carrière. Et pour finir, je tiens à préciser que pour les soignants de l'hôpital, c'est une rentrée perpétuelle, car ils sont au travail tous les jours et ils sauvent des vies, tout comme les enseignants éduquent la nouvelle génération pour avancer au mieux dans la vie.
Merci Loïc, merci pour ces fabuleux témoignages très touchants. Je me joins à vos mots pour souhaiter à tous les enseignants une bonne reprise scolaire, que ce soit pour leur premier emploi, peut-être leurs 20 ans, 30 ans de carrière. On arrive gentiment à la fin de nos thèmes. Hein. On a parlé de souvenirs joyeux, parfois drôles, mais aussi de stress, de défis, d'évolution. L'école, on la porte tous en nous. C'est un lieu d'apprentissage, mais aussi de rencontres et de découvertes. Parfois même les premiers endroits où on apprend à vivre ensemble. Hein. Aujourd'hui, l'école est un endroit universel et chaque entrée est comme une nouvelle page qui s'ouvre, alors qu'on soit l'élève, parent, enseignant ou simplement ancien écolier nostalgique, souvenons-nous que derrière chaque entrée, il y a une chance de grandir un peu plus. On se retrouve dans quelques instants après la chanson de Bad Kids qui s'intitule Black Lips.
We are nobody. No respect for nobody. Won't play well with nobody.
bad kids. D'ailleurs, tous les élèves ne sont pas des bad kids. Hein. Il y a aussi de très, très belles personnes partout. Mais super musique, je ne connaissais pas d'ailleurs, Black Lips. L'entrée scolaire, on a discuté en off. Des fois, ça fait peur. D'ailleurs, Étienne, vous aviez envie d'aborder ce thème déjà la dernière fois sur la peur. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous nous relancez sur ce thème qui, effectivement, peut-être tout le monde a eu un moment dans sa vie peur.
C'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Et ça peut être aussi être avec les enseignants, avec tout le monde qui se retrouve à la rentrée pour quelque chose d'obligatoire à faire ensemble. Il faut apprendre à se connaître, apprendre à vivre ensemble. Et c'est nouveau un défi. Et avoir de la patience pour tout le monde, pour chacun qui se retrouve à la rentrée. Je pensais à ce qui s'est passé en France avec Samuel Paty, aussi avec des professeurs. C'est un professeur, et puis malheureusement, il y a eu un parent d'élève qui s'est fâché contre lui. Et puis malheureusement, il l'a tué. Malheureusement, c'est ce qui m'est arrivé un peu à Monterre récemment. Il y a quelques semaines, il y a un type qui est... Ouais, il m'a écouté dans un karaoké, mais ça ne lui plaît pas. Alors, il me revoit ailleurs et puis il me tape sur la tête avec un verre de bière. Et puis, je me retrouve à l'hôpital. J'ai presque failli mourir. Et puis, je trouve ça vraiment... C'est pour ça que j'ai un peu peur de sortir. Et puis j'ai plutôt envie d'être aimé, quoi. Aimé, et puis qu'on s'aime avec la culture, qu'on partage de la culture ensemble, au lieu d'avoir toujours des problèmes sociaux et des problèmes qu'on n'arrive pas à régler, quoi. Ensemble, qu'on n'arrive pas à trouver les solutions, mais à retrouver les idées. Mais les idées, c'est aussi de trouver du bonheur, de s'éclater quand on sort et pas seulement faire du mal, quoi. Enfin, faire du mal, il faut éviter de faire du mal parce que c'est très important de ne pas se blesser quand on sort ou quand on retrouve des inconnus. C'est important de ne pas se blesser.
Mmh. Je suis très touché par votre témoignage parce que on ne devrait pas devoir être dans ce sentiment de peur parce qu'on vit les choses différemment que les autres. On doit apprendre à vivre avec la différence des autres. Et puis, ce n'est pas parce qu'on quelque chose ne nous plaît pas de quelqu'un d'autre qu'on doit lui taper dessus pour montrer son ignorance, son incohérence, peut-être de ne pas comprendre que l'autre a aussi de la valeur. Mais dans cette notion de peur aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a touché de dire, mais finalement, aujourd'hui, j'ai peur d'aller me balader en ville. Comment on pourrait surmonter cette peur? Je ne sais pas si on a tous vécu un moment dans notre vie un peur. Hein. La peur fait partie d'un mécanisme proprement humain. Hein. La peur, c'est, on pourrait dire, très archaïque. Hein. C'est une intention qui nous montre qu'il y a quelque chose qui va être imminent, qu'il y a un danger entour. Hein. On pourrait dire un mécanisme de protection. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est inné à nous. Mais comment on fait pour gérer cette peur qui peut nous envahir au point, quand on vit un drame, une tragédie comme vous avez vécu, comment on fait pour rebondir à ça, Paolo?
Alors, moi, pendant des années, mais beaucoup d'années, j'ai vécu une peur qui était en moi. Et maintenant, grâce au monde des psychologies, psychothérapie, etc., on était cherché très, très, très loin, pas mal d'années en arrière. Et on a pu sortir cette peur. Avant, je n'arrivais pas à parler en public ou j'avais peur de m'exprimer. Et puis maintenant, je le fais beaucoup plus facilement parce qu'on était cherché très, très, très loin.
Donc, une des pistes que vous dites, c'est quand on a un sentiment de peur, ne pas savoir d'où c'est d'aller pouvoir travailler, chercher sur finalement les mécanismes de fonctionnement qu'on a et qu'est-ce qui a pu générer cette peur. Hein. D'ailleurs, vous avez assez raison, ça me fait penser à ma maman, d'ailleurs, je la salue, qui était une enseignante aussi de longues années, qui elle ne fait plus de rentrée scolaire vu l'âge qu'elle a, elle a 82 ans, mais elle m'a raconté qu'elle avait constamment peur des orages. Mais vraiment, vraiment, quand il y avait un orage, elle avait peur. Elle ne savait pas du tout pourquoi elle avait peur. Et c'est en faisant une approche avec un thérapeute avec qui elle a parlé, ça passe comme ça, d'immersion, introspective, régression, qu'en fait, ils ont pu mettre en évidence que comme elle était née en 1944 sous les bombes à Lyon, bah, en fait, c'était cette peur qui était liée à ça, et c'est quand elle a pu mettre le sens et les mots dessus que la peur n'a pas disparu parce qu'elle est là, mais qui s'est dénuée, elle a affronté ces orages autrement. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres pistes peut-être que vous avez, qu'on pourrait faire profiter à nos participants d'aujourd'hui, ou aux gens qui nous écoutent, quand on a une peur qui arrive et qu'on n'arrive pas à la maîtriser ou à la gérer, qu'est-ce qu'on peut faire? Christine, je ne sais pas, vous prenez seulement
si
Christine.
C'est la phobie des insectes, alors moi j'ai tout essayé.
Oui. Alors la phobie des insectes, vous avez tout essayé.
Les araignées et les serpents.
Ouais. Et vous n'avez rien trouvé qui puisse vous soulager?
Non, moi je crois que c'est héréditaire, parce que quand ma mère elle voyait un serpent ou une araignée, elle hurlait. Alors je pense que refais ce qu'elle fait, elle, quoi.
Est-ce que vous avez essayé ce qu'on appelle peut-être alors l'hypnose ou l'approche TCC, traitement cognitivo-comportemental? On parle souvent de se mettre en confrontation de ses peurs. J'ai vu que pour les gens qui avaient peur des araignées, c'était dans les pays nordiques, comme pour la peur du vide, ils les mettaient en immersion avec des casques virtuels pour pouvoir appréhender petit à petit cette peur-là, et test après test. Alors ça a marché peut-être pour certains, pour d'autres pas. On espère trouver une solution pour que vous ayez plus peur des araignées. Étienne?
Oui, éteindre la télévision. C'est bientôt la fin de cette émission. Après cette émission, vous pourrez éteindre vos postes puis retourner à des occupations normales.
Ouais. Alors, est-ce que ça va aider à gérer la peur, ça? Non? Alors, je ne sais pas, Karine, on vous écoute, et après, je vous donnerai la parole, Eliane.
Bon, eh ben moi, j'ai eu peur de... Moi, j'ai eu souvent des peurs dans ma vie. Peur des examens. Je me mettais de la pression à l'école. Je voulais toujours bien réussir. Je me suis toujours mis beaucoup de pression. Et puis, des peurs, oui, aussi, j'en ai eu. Peur de rater les examens. Peur de louper la fin de l'apprentissage que j'avais fait. Ouais, j'ai eu des peurs. Je pense que ça peut se travailler, tout ça.
Et vous avez travaillé, par exemple, qu'est-ce qui vous a permis de faire face à vos peurs?
De la respiration aussi. De la respiration lente. Et puis, de me dire que ça ne servait à rien d'avoir peur quand même. c'est pas facile, mais je pense que ça peut se travailler.
Se conditionner peut-être.
Se conditionner, oui. C'était tester, une forme de condition, ouais. de test. Et puis ça a marché après.
Ouais. Merci. Eliane?
Par rapport à ces phobies que parfois nous avons, moi j'ai plus peur des gens que des animaux. Je n'ai pas peur des serpents, tout ça, j'adore. Et je voulais rebondir sur le sujet d'Étienne. La peur, c'est peut-être un manque de confiance en soi. Qu'en pensez-vous?
Oui, moi je voulais revenir là-dessus, c'est sur les angoisses. On est angoissé parce qu'on ne sait pas comment ça va se produire, comment ça va se passer, ce genre de choses. On est angoissé. Et puis c'est un peu ce que j'ai tous les jours. Quand je vais prendre les transports publics, quand je vais quelque part avec les transports publics, je ne sais pas qui je vais rencontrer, ce genre de choses.
Allez-y, Eliane.
Pardon. Est-ce que vous avez besoin d'écrire en fait vos tâches de la journée pour ne pas être surpris et pas avoir d'angoisse?
Non, je n'ai pas besoin d'écrire mes activités de la journée. Seulement, j'ai besoin de me concentrer sur ce que j'ai décidé de faire et pas autre chose, et pas être détourné par d'autres pensées, d'autres trucs de la société pour la journée. C'est ça le problème. Je suis un peu étourdi avec ce qui se passe maintenant en politique, avec les journaux, tout ça, ce qui se passe dans le monde, ça m'angoisse un peu quand même. Et ce qui m'angoisse un peu, c'est quand même ce qui se passe dans nos régions, et puis avec l'insécurité qui augmente, et puis quand on ne lutte pas assez contre l'insécurité.
Mmh. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on est dans une société qui évolue, qui malheureusement n'évolue pas que sur des belles choses, alors qu'il y a de très belles choses qui se font aussi aujourd'hui. Il y a de très belles actions, il y a de très belles choses qui se mettent en place, notamment comme Pavillon Nomade, cette radio associative. Mais c'est vrai qu'on peut être vite pris par ses craintes, ses peurs. Alors, si je reprends un peu l'exemple de ce que vous avez vécu, quand on vit dans la rue une violence qui en plus est gratuite, on peut avoir la crainte de sortir et voire même de s'isoler. Au bout d'un moment, on avait des gens qui ne sortaient plus de chez eux et qu'il a fallu réaccompagner à l'aide de gens proches de la famille, des proches aidants, ça pouvait être des thérapeutes, et puis aussi des fois de se dire bah tiens, je suis tellement pris par la crainte, la peur, qu'il faut que je défocalise autrement. Une des pistes, alors moi je vous invite tous à essayer, parce que ce qui fonctionne pour un ne fonctionnera pas pour l'autre, mais d'essayer plein de petites choses. Ça peut être simplement de dire bah quand je sors, peut-être si j'écoute de la musique ou un podcast, bah je suis pris par cette émission, par ce qui est en train de se faire cognitivement parlant, je mets ma pensée sur autre chose, et quand je vais d'un point A à un point B, ne serait-ce que pour aller à la poste payer ses factures, si on peut plus sortir parce qu'on a peur de se faire agresser, peut-être d'être dans une immersion haute permet qu'on arrive à faire le trajet avec une intensité de peur un peu moins grande. Ça va pas l'enlever, parce que ça va demander de retrouver, vous avez tout à fait raison Eliane, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Essayez des choses, des petites choses, peut-être que vous arriverez jour après jour à dompter cette peur. Et la dompter, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus. Ça veut dire simplement qu'on a réussi à trouver un mécanisme compensatoire qui nous permet d'être moins envahis. Mais ça pourrait être aussi le débat d'une future émission. On arrive gentiment à la fin. Eliane, vous voulez garder votre... On peut prendre quelques minutes encore. On avait dit que c'était la rentrée des classes aujourd'hui.
Oui, alors absolument. Mais ce n'est pas la rentrée des animaux.
Ce n'est pas la rentrée des animaux.
Et non. Alors, ils seront là la semaine prochaine, parce que ça ne va pas être possible pour moi de raconter quoi que ce soit, vu que j'ai reçu déjà un mail de leur part. Donc, ça sera la semaine prochaine. Alors. Par contre, ce qui me ferait super plaisir, c'est d'entendre le jingle qu'a composé Pascal. Pour des animaux.
Alors peut-être que ce qu'on va faire pour donner un peu de teasing à la semaine prochaine, c'est qu'on va lancer le jingle fait par Pascal Vigolo, d'ailleurs qu'on salue, qui nous écoute certainement. Merci pour votre travail. On écoute un peu ce jingle.
Dans la ménagerie d'Eliane.
C'est fantastique, dans la ménagerie d'Eliane. Si vous avez envie de découvrir cette rubrique qui était en vacances pour faire la vraie rentrée des animaux avec... comment c'est déjà, Eliane, le nom de la rubrique? Ça y est, j'ai un blanc.
C'est quoi déjà?
La ménagerie d'Eliane. Même heure, même endroit, la semaine prochaine. Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous ici en direct. Je remercie tous nos participants du jour d'avoir partagé, témoigné. Big up à tous les parents, élèves, enseignants pour cette année scolaire à venir. À jeudi prochain pour une nouvelle escale sur les ondes de Pavillon Nomade, où vous retrouverez Marie-Claude aux commandes de l'émission. On se quitte avec ABC des Jackson 5.